Alors, monsieur le professeur, on était dans Rimbaud, mais on va le quitter une seconde. Si vous voulez bien, on va commencer dès maintenant.
Allons-y.
La projection privée. Alors, d'abord, je suis un peu impressionné. Je suis très impressionné d'abord parce que ce que j'ai lu, alors c'est fou quand on regarde un petit peu la presse vous concernant. D'abord, elle est nombreuse. Alors, j'ai d'abord regardé calmement le vous-vous et là, Laborie Henri Marie, chirurgien des hôpitaux.
Oui.
Ça tient toujours.
Ah bah oui, je tiens toujours. C'est passé.
Alors la presse, il y a tout. Laborie le sceptique, Laborie un bricoleur de génie, Laborie un hors-loi-loi de la science, Laborie un pédagogue hors du commun, Laborie un français génial et méconnu. Alors j'avais quelque chose de drôle là, à propos d'un analgésique miracle que vous avez découvert, le professeur Henri Laborie dément.
Je pourrais vous raconter l'histoire, mais enfin, ça ne présente pas d'intérêt.
Non, mais je veux dire, vous êtes accoutumé maintenant, vous dites de vous-même un affreux jojo, non? Vous êtes aussi un affreux jojo. Comment avez-vous été perçu par les gens pour qu'il y ait cette abondance de choses et chaque fois, en dehors des marges, en dehors du convenu, ce qui était un grand compliment, hein, me semble-t-il.
Ouf, pour une joie de compliment, ma vie a été la recherche de faire ce que je voulais au moment où je voulais. Alors, elle n'était pas conforme. Très souvent, elle n'a pas été conforme.
Elle n'a pas été maintenant, conforme au désir des autres. Mais l'important, c'était que vous fassiez votre vie.
Non seulement au désir des autres, mais le désir des autres, c'est conforme à un certain type de socioculture. Oui. Alors, comme effectivement, il ne faut pas trop quand même faire de vagues.
Non, j'ai lu aussi.
J'ai fait semblant et j'ai tourné. J'ai écrit l'éloge de la fuite. Et ça, oui. Je pense que. La fuite, c'est surtout imaginer son quotidien sans que les autres vous tuent prématurément et sans qu'on en fasse trop de mal parce que comme ils sont plus nombreux, vous ne leur échapperez pas.
Je pense
Il faut inventer tous les jours quelque chose de neuf pour ne pouvoir pas être complètement soumis et faire ce qu'on veut.
C'est ça le sens de l'éloge de la fuite.
Oui, l'éloge de la fuite c'est dans l'imaginaire. Et l'imaginaire, il est aussi bien dans l'imaginaire créateur que dans la création, c'est pas simplement la poésie, la musique, la peinture, c'est aussi la création de son quotidien, de son comportement par rapport aux autres.
Vous dites de l'imaginaire très joliment que c'est la seule destination pour laquelle on ne demande pas de passeport.
C'est vrai, oui.
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 J'ai pensé à propos de vous, c'est bizarre, à François Villon qui disait « De tous bien accueillis, déboutés de chacun, il y a de cela, à partir du moment où on veut faire ce que l'on entend faire. »
Oui, mais... Que voulez-vous ? Je comprends pas, là,
je veux dire, ce qui me frappe, c'est que par exemple, vous avez une année, on a beaucoup parlé de vous, pour éventuellement le prix Nobel, et qu'on dit qu'il y a
un grand travail français qui est allé dire
« Surtout ne donnez pas à cet homme pour les travaux d'un imposteur. » Donc il y a une espèce de violence quand il s'agit de vous.
Oui, mais ça, il y a des quantités de raisons. Bon, là, j'ai été interne des hôpitaux de Bordeaux et pas de Paris. J'ai été chirurgien des hôpitaux de la Marine, maître de recherche des services de santé. Et finalement, je n'étais pas dans ce qu'on peut appeler l'établissement, qui en France a toujours été très centralisé sur Paris. Et en fait, à 35 ans, je suis tombé sur une découverte qui a fait le tour du monde. Et il est possible que... Il fallait que ce soit une découverte parisienne. Non, je n'étais pas parisien, je venais tout juste de m'établir, d'être nommé à Paris. Je ne faisais pas partie de la maison. Alors, au début, on était très gentils, puis quand on a vu l'importance que ça prenait, il fallait que ce soit d'autres qui soient à ma place. Alors, au début, j'étais jeune, hein, j'ai cru qu'il fallait se défendre, qu'il fallait prouver, puis très rapidement, j'ai compris que ce n'était pas la peine. Et d'ailleurs... À partir de 58, j'ai pris la direction d'un laboratoire qui a vécu par lui-même. J'ai mon autonomie économique. Les découvertes qu'on fait sont... Nous sommes dans un monde marchand. J'ai compris assez tôt que ce qui faisait plaisir, c'était de comprendre ce que j'étais, ce qu'étaient les autres, c'est-à-dire essentiellement comment fonctionne un cerveau humain. Oui. Et puis, j'ai perçu que ça n'intéressait personne. Donc, ce que l'on pouvait me pardonner, c'est de trouver des drogues qui permettaient à l'industrie pharmaceutique de pouvoir fonctionner. Alors on leur a trouvé les drogues, mais qui nous servent, nous, surtout à comprendre, à confirmer le mécanisme qu'on a imaginé. Le but n'est pas de trouver une drogue, le but est de comprendre un mécanisme et ensuite d'imaginer une drogue qui va pouvoir agir sur ce mécanisme. Alors quand elle peut être utile en thérapeutique, je ne crois pas tellement à la pharmacologie, si vous voulez, je ne crois même pas du tout. Si en urgence. Oui. Je dis souvent que si j'avais une pneumonie, j'aimerais bien qu'on fasse de la pénicilline, et je dirais merci à Flamini au passage. Oui. Ce qui m'intéresse beaucoup plus, c'est de savoir pourquoi j'ai fait une pneumonie. Et ça, c'est parce que, alors là, je commence à comprendre, et depuis 15 ans, j'essaie de le répéter, puis maintenant, ça vient de tous les côtés, quoi. Ça vient du fait que le rapport que j'ai avec mon milieu ne m'a pas permis de rester en équilibre biologique, d'être heureux dans sa peau, si vous voulez. C'est très compliqué sur le plan fondamental de la biochimie cérébrale, de la neurophysiologie, mais c'est très simple quand on l'exprime comme ça. Oui. Être heureux dans sa peau, ça dit bien ce que ça veut dire.
Votre dernier livre, je crois que c'est le dernier, La Nouvelle Grille, c'est le dernier ou bien c'est son apparition
à folio? C'est la date de 73.
C'est ça, mais il est sorti en folio l'année dernière ou au début de cette
année. Oui, il a été repris en collection de poche.
Alors, cette Nouvelle Grille, signification du mot La Nouvelle Grille?
Ben, vous savez, vous disiez tout à l'heure, j'étais médecin de la marine. Les médecins de la marine, pendant la guerre, je l'ai faite. J'ai même coulé en mer du Nord, en évacuation de Dunkerque, sur un torpilleur qui s'appelait le Sirocco. Et un médecin de la marine, tant que ça n'a pas de blessé, ça fait du chiffre. Le chiffre, ça consiste à recevoir des télégrammes et à les décoder du code fondamental en un langage clair que l'on transmet au commandant. Donc, on a une grille d'interprétation, et même, si vous voulez, à l'absurde, le plus simple, on place une grille, une vraie grille, et il ne reste que visible que les lettres qui vont constituer le télégramme. Alors, j'ai utilisé ce terme de nouvelle grille de décodage
du monde
et surtout du comportement humain dans ce monde.
Vous connaissez cette nouvelle grille, ça vient de loin, mais à la guerre du petit kiosque qu'on a préparé, c'est-à-dire dans lequel il y a l'actualité dite culturelle, c'est-à-dire le théâtre, le cinéma, les livres, et que je vous propose de regarder avec votre...
Une seconde encore.
Je vous en prie.
J'ajoute que justement, le titre de l'édition anglaise et de l'édition américaine, Il n'y a pas de correspondance de la nouvelle grille, ça ne veut rien dire en anglais. Alors c'est decoding,
c'est complètement traduit.
Voilà.
Par une dynastie marxo-lénino-coréenne. Pour notre part, nous lui proposons ce projet beaucoup plus modeste. Swift conseillait de manger les enfants des pauvres d'Irlande. Ici, il est aussi question d'enfants pauvres, mais c'est seulement à leurs yeux qu'on en a, ce qui est tout de même, avouez-le, beaucoup plus humain. Wittgenstein. Même si c'est la première fois où vous entendez prononcer son nom à la télévision, Wittgenstein est un des géants de la pensée du XXe siècle. Ne l'oubliez pas. Restons parmi ceux qui ont modelé et modifié la perception que nous avions de l'homme en lisant La bataille de 100 ans, qui est celle de la psychanalyse, par Elisabeth Rodinesco. Et si il n'était pas mort à Sainte-Hélène, petite île? Et si il s'était évadé? Et si il avait voulu reconquérir le pouvoir? Et s'il avait changé de vie en cours de route? Simon Leys y a pensé, lui. Je ne sais pas si Faust a été damné, mais si Robert Nye ne l'est pas après un pareil bouquin, c'est vraiment que le diable n'est plus ce qu'il était. Comment truquer des photos, se débarrasser de preuves gênantes, gommer la trace de quelques vieux amis qu'on vient de faire fusiller, vous faire prendre le Messie pour une lanterne? Le commissaire aux archives de Alain Jaubert vous expliquera tout ça. Andrea del Sarto est un artiste souvent bien méconnu. Profitez de l'exposition organisée au Louvre pour le découvrir ou le redécouvrir. Il est certain que la CEITA a beaucoup plus que les trois lettres qui forment le mot sceau, puisqu'elle organise une exposition sur les abécédaires. Offrez-vous le lifting du siècle en rajeunissant de plusieurs millions d'années, en courant au nouveau planétarium de la Villette. L'infini y est à la portée de votre rêve.
Get a nose job, get your ears fixed, get your teeth fixed, shave some of that hair off your hands, and just be yourself.
This little plan here is gonna take me all the way to the top. Is he really a rat?
Hey, look, that boy is no phony.
C'était un extrait de Rat Boy, interprété et réalisé par Sondra Locke.
Vous voudriez que je fasse l'amour avec lui?
Oui, je voudrais bien.
Bonjour Max. Tu vois, je suis toute nue comme toi.
Si certaines dames vous disent faire ça avec un singe, quelle horreur! Eh bien, dites-vous que c'est simplement parce qu'elles n'aiment pas les bêtes. Et allez voir le film.
Je représente un mur.
Le théâtre français donne le songe d'une nuit d'été dans une mise en scène de Georges Lavelli. Songez-y.
Au plus beau lit nuptial et le baignant. Et la lignée engendrée là.
Alors que le théâtre du Marais vous convie à une comédie sans titre, la comédie sans titre, c'est son titre, à la Potinière, vous apprécierez Chat en poche, mitonné par Robert Manuel et toute la troupe. Et au Mathurin, Les petits oiseaux et mon Isménie de la biche, avec Jean-Marie Prolier et Gérard Caillot, fait une joyeuse basse-cour.
Alors, dans ces shows qui sont passés très vite, y en a-t-il une ou l'autre qui ait retenu votre attention?
Ce qui m'amuse, c'est, je n'ai pas lu, mais la mort de Napoléon. Oui. J'ai un ami qui vendéen comme moi, s'appelle Proutot, et qui a écrit...
Ah, Gilbert Proutot.
Oui.
Ah, bah, je connais très bien.
Bon, il a écrit un épisode de la vie de Napoléon, un gros livre d'ailleurs, fort bien documenté, qui est peu connu d'ailleurs. On ne sait pas que Napoléon, oui, avant de partir à Sainte-Hélène, a essayé de s'évader en Amérique, et qu'il a, on est passé par l'île d'Aix. Et oui, qu'à l'île d'Aix, l'histoire est assez fabuleuse d'ailleurs. Oui. Un capitaine vendéen voulait l'entraîner dans une barrique, un four, aux États-Unis pour où il aurait reconquis une popularité, refait sa vie. Il a étudié pendant plusieurs semaines entre son passage à Paris et son passage à l'île d'Aix, où il a été finalement pris par les Anglais. Il avait étudié toute l'histoire, la géographie de l'Amérique, et il pensait y aller. C'est trouvé très peu de choses qui n'y parlent.
Vraiment, ça a tenu un fil.
Un fil, oui.
Et cette chose est absolument pas connue ou peu connue.
Non, mais le livre de Proutot est très intéressant.
Alors peut-être y a-t-il, nous verrons, parce que je n'ai pas lu non plus, si dans celui-ci nous allons...
Oui, c'est cet épisode, oui.
Allusion. La psychanalyse, la guerre de 100 ans à laquelle on vient de parler, est-ce que les rapports de vos travaux sur le cerveau amènent à dire ça prouve la réalité de la psychanalyse, ça la met en question ou c'est complètement différent et ça n'a aucun rapport?
Nous avons travaillé pendant 14 ans avec un psychiatre psychanalyste analysé par Lacan en plus, oui, qui s'est recyclé, enfin cyclé peut-on dire, oui, au laboratoire à temps plein pendant 4 ans, en biochimie, neurophysiologie et éthologie, enfin biocomportement, etc. Donc finalement, il n'a pas fait de crise de conscience, il est retourné maintenant, nous restons très liés avec lui d'ailleurs, mais enfin il est retourné, il a réouvert son cabinet d'analyse et il continue l'analyse. Je pense que Freud lui-même avait dit, c'est la biologie qui confirmera ou infirmera ce que je dis. Je pense que Freud, comme tous les gens qui ont apporté quelque chose, encore qu'il ait été critiqué dans son originalité même, puisque certains ont dit qu'il avait piqué là et là, bon, de toute façon, c'est lui qui a quand même apporté un certain nombre de notions qui approchaient d'une façon très intuitive. Et sur 5 observations, finalement, oui, l'introduction à la psychanalyse, je ne sais pas si vous l'avez lu, elles se sont révélées justes. Alors, je pense que les psychanalystes souvent m'en veulent. Un certain nombre de psychanalystes voient d'un très mauvais œil l'introduction de la biologie des comportements dans leur domaine. Mais il n'y a aucune... au contraire, moi j'utilise souvent les concepts freudiens que... que je ventile, si vous voulez, avec la biochimie et la neurophysiologie, le fonctionnement cérébral. Mon inconscient n'est pas l'inconscient freudien, bien sûr, c'est pas la même chose, mais il y a beaucoup de points qui sont communs.
Alors écoutez, je voudrais vous montrer maintenant un film, en fait, un film que vous connaissez diablement bien, si je puis dire, puisque c'est un film d'Alain René. Je sais que c'est la fin, parce que ça va nous ouvrir vers une question que je voudrais vous poser, mais c'est donc la fin de Mon oncle d'Amérique. Les souvenirs de l'oncle d'Amérique, l'arbre, le mur.
Oui, je pense que dans le film de René, beaucoup d'images ne sont compréhensibles que quand on a lu mes livres avant. Mm-hmm. Celle-là en est un exemple, par exemple. Il y en a d'autres, les poupées russes, par exemple. Enfin, celle-là est assez typique dans l'épilogue d'un de mes livres, L'éloge de la fuite, vous l'avez là. Je décris aussi, non pas une ville, mais des cathédrales détruites, et puis il n'y a plus rien, et puis il y a une fleur qui sort, il n'y a plus personne pour la voir. Ça veut dire que la photosynthèse, qui est à l'origine de toute la biosphère, c'est elle qui permet, les plantes vertes permettent la transformation de l'énergie du photon solaire en molécules chimiques que nous absorbons et qui font vivre tout ce qui est vivant sur la planète. On peut avoir une ville détruite et puis cette photosynthèse, elle est représentée, elle est schématisée par l'arbre. Et dans cette image, qui est la dernière du film, aussi une notion très importante, c'est que la caméra focalise de plus en plus. Et quand on arrive à voir plus qu'une pierre, qu'une brique, on ne voit plus l'arbre. C'est toute la critique du réductionnisme. Oui. C'est-à-dire que si on ne voit pas à la fois et l'arbre et la pierre, on ne peut pas construire un monde cohérent.
Ce monde cohérent, est-ce que le cerveau humain... Venons-y à ce fameux cerveau, fait-on un bon usage de notre cerveau? Et quelle est, j'ai toujours cette petite, elle a toujours son utilité, elle est là depuis le professeur Lhermitte, elle ne nous quitte plus. Je veux dire, quelle est la spécificité du cerveau humain, en quoi sommes-nous différents des autres mammifères?
Le reproche qu'on a fait d'ailleurs au film de René, qui s'est amusé d'ailleurs, je ne suis pas tellement d'accord de ce point de vue, il a mis des têtes de rat, et on ferait confiance tout de même.
Oui,
crois connaître un petit peu quoi, quelques différences entre un cerveau humain et un cerveau de rat, un cerveau d'animal. Il est vrai que les mammifères ont les trois cerveaux de MacLean, que j'ai repris d'ailleurs, et MacLean m'a envoyé son dernier ouvrage en dédicaçant en anglais aux plus créatifs des mammifères, ce que j'ai beaucoup apprécié d'ailleurs, donc je suis bien un mammifère, c'est vrai. Mais si je suis créatif, c'est parce que j'ai rempli les mammifères... Vous êtes créatif.
Si
nous sommes créatifs, c'est parce que nous avons vu des mammifères en général, une zone du cerveau qui est derrière ce cerveau droit, là. D'ailleurs, ce fond droit, on en est très fiers. Et nous avons raison, d'ailleurs, parce que l'homme de Néandertal, qui était un homme qui avait inventé le feu, qui avait fait toute la... une industrie lithique, c'est-à-dire qui savait casser des cailloux pendant 2 millions d'années, il a... De mieux en mieux, par l'homme de Néandertal qui n'a commencé qu'il y a 250 ou 300 000 ans. Mais donc, il avait un angle orbitofrontal de 60 degrés. Et là, nous avons un angle de 90 degrés. Et vous me direz qu'esthétiquement, c'est peut-être plus joli, encore faut s'y habituer. Mais ce qu'il y a surtout, c'est que dans cet angle, il y a des milliards de cellules, qui ont des milliards de neurones, qu'on appelle des neurones associatifs, et qui permettent d'associer tout ce qui est, nous disons, engrammé, c'est-à-dire que la mémoire laisse des expériences du vécu journalier, les traces qu'elle laisse dans nos neurones, les associe d'une façon originale et différente.
Donc l'utilisation de la mémoire fait progresser de plus en plus, et on ne l'avait pas à l'origine, on l'a gagné peu à peu.
Oui, alors là, pourquoi, ça se discute encore, hein, oui. Mais en fait, c'est que nous avons un cerveau associatif particulièrement développé, et effectivement, on s'en sert très peu. Pourquoi? Parce que nous automatisons, de génération en génération, nous automatisons les petits de l'homme. On leur apprend quel est le beau, le vrai, le bien, le mal, et on leur dit, c'est comme ça qu'il faut faire, tu seras récompensé, si tu fais pas comme ça, tu seras puni. Et finalement... grâce au langage qui permettent de transporter, dirais-je, de transmettre l'expérience de génération en génération. Un enfant qui vient de naître, effectivement, à l'âge de 3 ou 4 ans, il ne va pas refaire toute l'expérience humaine depuis ces périodes de lointaines dont je parlais tout à l'heure. On lui apporte, par l'intermédiaire du langage, et puis par d'autres systèmes de communication. Il ne remet plus ça en cause. Nous parlons de façon strictement automatique. Je ne sais pas actuellement comment j'arrange mes phonèmes et monèmes pour avoir une phrase avec une syntaxe et une grammaire que j'ai appris. Nous apprenons tout. Nous apprenons à marcher, nous apprenons à tout est appris. Et un enfant sauvage ne sait ni parler ni marcher parce qu'il n'a pas appris.
Et un enfant d'homme d'aujourd'hui, vous parlez... On vous a fait un petit montage, vous le souhaitiez, vous allez le voir. Moi, je ne l'ai pas vu, il paraît que c'est surprenant. Des hommes politiques et des paroles des hommes politiques, et vous allez voir.
Oui.
Moi aussi, nous n'avons pas encore eu la joie de voir cela.
Que nous, communistes, nous ouvrons une vraie perspective de rassemblement et d'union. Les rassembleurs, c'est nous.
Il nous paraît que toutes les expériences socialistes ont échoué. Du socialisme au visage humain au socialisme à visage bestial, même dans les meilleurs des cas, le socialisme suédois est d'une tristesse infinie et, à notre avis, génère l'échec et l'appauvrissement.
Vous savez, j'ai jamais pensé une seconde que la cohabitation serait une partie de plaisir. Jamais. J'ai toujours dit, ça va être difficile, et c'est parce que c'est difficile qu'il faut y aller.
Nous sommes des démocrates, nous appliquons la Constitution, le gouvernement respecte le calendrier qu'il s'était fixé.
Mais où sont donc, dans le programme de la droite, les mesures positives? Pouvez-vous me citer? Il faut le dire aux Français. Un grand projet, une mesure généreuse, quelque chose dont on puisse parler pour faire un débat avec intérêt et confiance.
Le retour des cendres de 25 000 soldats français morts en Indochine. Un premier avion a rapatrié 800 cercueils ce matin à l'aéroport de Roissy. Le Premier ministre, accompagné de plusieurs autres ministres, s'est incliné devant les dépouilles.
Je crois que les Français souhaitent que chacune des autorités, le président de la République, le gouvernement, le Parlement, exerce son mandat avec le maximum de sérieux et de sérénité.
C'est que les Français sont décidément extrêmement intelligents. Ils ont parfaitement compris ce que nous faisons.
On ne sait pas ce que veulent les Français. Moi, je pense qu'il faut le leur demander d'une manière claire.
Le Premier ministre, M. Jacques Chirac, a réuni bien sûr aussitôt son sorte de conseil de sécurité. Et ce matin, il a annoncé une réponse foudroyante et sans faiblesse aux auteurs de ces attentats terroristes. Vous voyez ici le Premier ministre aux obsèques du gardien de la paix, Jean-Louis Bretot.
Écoute-moi, je ne suis pas candidat, je suis président de la République. Si j'ai autant d'élus que M. Lumumba, pourquoi ne serais-je pas candidat, moi aussi, à la candidature à la présidence de la République?
On sera là. Il faudra compter avec nous et compter, si vous le voulez bien, avec nous.
Union. Élection.
Trouvez, oui ou non, que M. Rocard aurait les qualités qui conviennent à un bon candidat socialiste à la présidence de la République.
Il a tout à fait les qualités. J'imagine qu'il y en a d'autres.
Un mois après, vous soyez arrivé au pouvoir, quand on demandait aux gens s'il y avait des élections présidentielles, qui est-ce que vous diriez, c'était plutôt Chirac. Hein, oui. Et puis maintenant, c'est plutôt Mitterrand.
Eh bien, demain, ça sera encore Chirac.
Mais en tant que président de la République, en tant que président de l'assistance publique...
Moi, je suis un homme heureux. Est-ce que vous me voyez avec un air malheureux? Il y a des quantités d'événements qui me rendent heureux.
Tout ce qui se dit à ce sujet, je dis bien tout ce qui se dit, hein, pas les propos spécialement de M. Mitterrand, ceux de M. Rocard, ceux des autres leaders socialistes, et quelquefois, malheureusement, dans la majorité, ça me fait penser à la chanson de Dalida. Parole. Vous voyez, je crois.
Alors c'est quoi? C'est un... Est-ce que M. Toudon...
Je ne dirais pas ce qu'il a lu. Monsieur Toudon, il a lu un des passages de mes bouquins où justement...
C'est dans l'éloge de la fuite.
Ah oui, vous le connaissez.
Absolument.
Mais je dis, comme Dalida le dit sur un ton vraiment...
Vous êtes très très sévère hein, avec les hommes politiques.
Oui,
ah, oui. Là j'ai dans le journal du Parlement. Il suffit de regarder les hommes politiques dans leurs meetings ou lorsqu'ils s'affrontent sur les chaînes de télévision, considérer leur gueule, leurs propos... de prétention, de certitude ô combien incertaine, s'ils avaient le courage d'être lucides avec eux-mêmes, une sorte de jeu de la vérité où les dés ne seraient plus pipés, le spectateur intoxiqué de médias comprendrait très vite que leur numéro n'a qu'un seul objectif, celui d'ouvrir leur braguette, d'exposer narcissiquement leurs couilles en public en disant « Regardez-les, ne sont-elles pas les plus belles? Alors pourquoi hésitez-vous à me suivre ?» Là, vous avez bien...
Oui, non, mais je ne renie pas.
Non,
je crois que ce qui est dramatique, c'est que avec le langage et un discours logique, prétendument logique, on peut dire n'importe quoi et on peut faire n'importe quoi. Le langage est à la fois, comme la langue d'Ésope, la meilleure et la plus terrible, la plus dangereuse des choses. Et on croit qu'on détient une vérité, alors que cette vérité, et en plus on croit qu'on est décideur, alors qu'on obéit simplement à des impératifs économiques en général, et on recherche une dominance. Et alors cette dominance, il suffit de le voir dans ce que nous avons vu, ce n'est que ça. C'est la recherche de « je suis le plus grand, je suis le plus beau, aimez-moi ». Et je pense que je dois dire aussi, d'ailleurs c'est vrai, je l'ai déjà dit, je pense que la recherche de fauteuil présidentiel ou d'assemblée, dite gouvernante, vient sans doute assez souvent de l'insuffisance au lit.
Et vous pensez que c'est
une façon de compenser, d'avoir une image de soi qui vous permette d'être amélioré, parce qu'il n'est pas toujours assez efficace. Maintenant,
je crois que tout cela trahirait quelque chose qui vous manque.
Je pense que finalement, la chose importante, c'est que... Vous allez me dire que je parle encore pour ma chapelle... Tant qu'on ne sait pas comment fonctionne un cerveau, tant qu'on ne sait pas comment il a été créé, façonné, au cours de, d'une part de l'histoire de l'espèce et d'autre part au cours de sa propre histoire, comment voulez-vous qu'on fasse autre chose que d'ajouter les mots les uns ou les autres?
Est-ce que vous voyez que la médiatisation, ce terme d'aujourd'hui, le fait que la télévision joue un très grand rôle, accentue encore cette...
Sûrement. Des exemples comme celui que vous avez montré devraient permettre l'exercice du soupçon. Mais c'est étonnant comme les gens qui eux-mêmes ne sont pas conscients de leur motivation, de leur apprentissage culturel, de leurs automatismes conceptuels, langagiers, et ils acceptent, et suivant qu'elle correspond à leur propre automatisme culturel, accepte très volontiers ce que l'on peut leur raconter. Alors que c'est amusant, moi j'aime bien aller voir les hommes politiques parce que c'est drôle je pense qu'ils se regardent quelquefois. Comment n'arrivent-ils pas à sourire de
même
quand ils se revoient à la télévision? C'est très drôle. Vous me direz que je pourrais également, quand je reverrai passer, je la vois, sourire de moi-même, mais je le ferai. Est-ce que j'étais couillon à ce moment-là, d'avoir répondu ça, d'avoir dit ça.
Tandis que là, je pense qu'il y a les entourages qui vous disent non, au contraire, c'était ça qu'il fallait dire.
L'entourage bénéficie aussi de la puissance et du pouvoir conquis, un faux pouvoir. Il n'y a pas de pouvoir dans l'homme politique.
La notion qui me revient, parce que je me suis replongé dans vos livres avec Élise d'ailleurs, et c'était la notion du bourgeois gentilhomme. Car quand vous dites cela, c'est pour ça que je pense qu'il serait intéressant de regarder un extrait du bourgeois gentilhomme, c'est qu'il y a ce désir de parade et ce désir d'accéder à quelque chose que l'on n'avait pas de naissance. Et c'est ça tout de même l'aventure politique.
Oui, pas de naissance. S'élever dans une... En fait, je pense qu'on a toujours divisé l'homme en deux moitiés, une moitié dite culturelle et une moitié productive. Mm-hmm. Actuellement, c'est la moitié productive qui est la plus efficace et il vaut mieux sortir d'une grande école parce qu'on imagine et on fait des machines qui font beaucoup d'objets en peu de temps et très sophistiquées. Les Japonais nous envahissent avec bon. Et alors, la compétition se fait sur le degré d'attraction dans l'information professionnelle. Et puis l'autre moitié qui est la moitié culturelle, alors elle paraît gratuite.
Oui.
Et moyennant quoi, ça devient très beau, l'art. Alors, le pauvre bourg de citoyen qui, lui, n'a pas de dominance, une fausse dominante, ne croit pas avoir de pouvoir, on lui dit, voyez, si pour participer à cette classe dominante,
il faut au moins
avoir cette culture. Et cette culture, c'est bien sûr que la poésie, la musique, la peinture sont là, mais la science aussi. Et la connaissance de soi-même, connais-toi toi-même.
Alors vous savez que Michel Serrault est à l'heure actuelle l'avare, mais donc nous l'allons retrouver, nous, dans le Bourgeois Gentil. Vous allez voir.
Que voulez-vous apprendre ? Tout ce que je pourrais, car j'ai toutes les envies du monde d'être savant, et j'enrage que mon père et ma mère ne m'aient pas fait bien étudier dans toutes les sciences hein, quand j'étais jeune.
Ce sentiment est raisonnable. Nam sine doctrina vitae quasi mortis imago. Vous entendez cela et vous savez le latin, sans doute.
Oui, mais faites comme si je ne le savais pas. Expliquez-moi ce que cela veut dire.
Cela veut dire que sans la science, la vie est presque une image de la mort.
Ce latin-là a raison.
N'avez-vous point quelques principes, quelques commencements des sciences ?
Oh, oui, je sais lire et écrire.
Par où vous plaît-il que nous commencions ? Voulez-vous que je vous apprenne la logique ?
Qu'est-ce que c'est que cette logique ?
C'est celle qui nous enseigne les trois opérations de l'esprit.
Qui sont-elles, ces trois opérations de l'esprit ?
La première, la seconde et la troisième. La première, qui est de bien concevoir par le moyen des universaux. La seconde, de bien juger par le moyen des catégories, et la troisième, de bien tirer une conséquence par le moyen des figures Barbara, Célarin, Dari, Ferriot, Barayton, etc.
Voilà des mots qui sont trop rébarbatifs. Cette logique-là ne me revient point. Apprenons autre chose qui soit plus jolie.
Voulez-vous apprendre la morale ?
La morale ?
Oui.
Qu'est-ce qu'elle dit, cette morale ?
Elle traite de la félicité, enseigne aux hommes à modérer leurs passions et...
Non, laissons cela, je suis bilieux comme tous les diables et il n'y a morale qui tienne. Je me veux mettre en colère tout mon sou quand il m'en prend envie.
Voulez-vous que je vous apprenne la physique ?
Qu'est-ce qu'elle chante, cette physique ?
La physique est celle qui nous enseigne les principes des choses naturelles et les propriétés du corps, qui discourt de la nature des éléments, des métaux, des minéraux, des pierres, des plantes et des animaux. Il nous enseigne les causes de tous les météores, l'arc-en-ciel, les feux volants, les comètes, les éclairs, le tonnerre, la foudre, la pluie, la neige, la grêle, les vents et les tourbillons.
Il y a trop de tintamarre là-dedans, trop de bruit à venir.
Que voulez-vous donc que je vous apprenne ?
Apprenez-moi l'orthographe.
Alors voilà notre bourgeois gentilhomme. Vous avez traité dans votre livre de la bourgeoisie et de cette dominance après la révolution de 89 et par la révolution de 89 avec cette dominance nouvelle qui était...
Celle de l'argent et de la propriété.
Liberté, égalité, fraternité étant...
Mais au début, ça n'a pas été pour liberté, fraternité. Liberté, égalité, fraternité, c'était liberté, égalité, propriété.
Propriété.
Et parce qu'on considérait que la bourgeoisie...
C'était plus honnête que...
Oui, 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 parce que faire la guerre de Vendée...
Oui.
Au nom de la fraternité, c'est un peu fort. Non, mais ce que je pense, c'est que les bourgeois ayant atteint un pouvoir que les aristocrates avaient perdu, puisque les aristocrates, au fond, c'était les descendants des gens qui savaient porter le haume et le houbert et qui pouvaient protéger parce qu'ils avaient, on leur apprenait très tôt les lois de la guerre, comment il fallait se... Bon. Les bourgeois ayant vu qu'il n'y a pas besoin d'être un grand costaud et de savoir...
Et que le danger avait un peu disparu.
Et qu'il suffisait d'avoir un certain capital pour s'approprier les objets et les êtres, finalement, c'est ça. A voulu quand même avoir l'air de succéder à...
oui, de donner, sinon une chevalerie, tout de même quelque chose de convenable.
Alors, c'est ça le bourgeois gentilhomme, il n'est pas mort, c'est toujours la même chose. Actuellement, c'est toujours une espèce de mascarade, une comédie, dans un certain snobisme, dans la façon de s'habiller, la façon de...
Vous avez une phrase terrible, vous dites la liberté est le fondement de l'inégalité.
Je ne crois pas dire que la liberté... la liberté, je pense que si on admet que la liberté consiste, pour ce cerveau humain dont on parlait tout à l'heure... à imaginer quelque chose qui lui sorte des systèmes manichéens dans lesquels l'animal et la majorité de nous sont enfermés. Alors, Ça ne veut pas dire que nous soyons libres, parce que pour imaginer quelque chose de neuf, un comportement nouveau, quelque chose de neuf, il faut en avoir envie, sans ça, si ça ne vous intéresse pas. Et ça, si vous en avez envie, c'est qu'il y a une pulsion qui est derrière, elle n'est pas isolée dans l'atmosphère, elle est au niveau de régions précises du cerveau. Il vous faut, pour pouvoir imaginer, avoir une expérience antérieure. Cette expérience antérieure, elle vous a été donnée par les autres, on l'a introduit dans votre cerveau. Si vous ne faites que répéter ce que les autres vous ont dit, bah, évidemment, vous n'imaginerez rien et vous ne serez pas plus libre, puisque vous serez parfaitement conforme aux normes culturelles du moment. Un enfant qui vient d'être n'a pas d'instinct de propriété, seulement il apprend qu'il y a des choses qui sont agréables à avoir à sa disposition, puis d'autres qui sont désagréables, dont il vaut mieux se débarrasser ou fuir. Et à partir du moment où on a compris que certaines choses étaient agréables à manipuler, à avoir pour soi, pour les utiliser, répéter l'action que nous disons gratifiante, et bien à ce moment-là, si veut aussi posséder cet objet, on a appris que il y a certains groupes humains qui n'ont jamais eu la notion de propriété. Enfin, maintenant c'est fini, mais enfin il y a eu la notion de propriété au Pacifique Sud il y a quelques années, comme rapporteur de l'Association mondiale de psychiatrie qui tenait son congrès à Tahiti. Alors on payait un voyage d'un mois et demi pour étudier les éléments de mon rapport, et il s'est trouvé que de moins en moins, mais il y a encore des groupes humains qui ont tout à leur disposition et ils n'ont pas la notion de propriété, même pas la notion de propriété de l'enfant. La famille c'est la famille patriarcale ou paternaliste ou que nous connaissons dans les zones tempérées de l'hémisphère nord depuis 12 000 ans. Mais on ne sait pas quel est le père. Alors l'enfant appartient à un groupe social. Même la propriété d'enfant n'est pas. J'ai vu arrêter un gosse de 14 ans avec les menottes et je pensais déjà Jean qui l'avait arrêté. Je lui dis, mais qu'est-ce qu'il a fait? On vient de la prendre, la met dans ma main, dans le sac, il était en train de voler. Et le gosse m'a regardé avec un sourire, il dit, non, j'ai pris. Parce que, il aurait remporté, c'était une tondeuse à gazon, il aurait remporté le soir, il avait besoin de tondeuse. Bon, voilà. Mm-hmm. Alors, quand on voit qu'on peut, on n'hésite pas à tuer deux personnes en mettant une bombe dans sa voiture parce qu'on vous a volé votre appareil de radio de votre voiture à plusieurs reprises, on se dit, la notion de propriété, c'est quand même assez dangereux.
Alors, on vous a préparé, je crois d'ailleurs, un montage sur la violence dans le monde et sur lequel j'aimerais bien que vous le regardiez et vous me disiez ce que vous en pensez.
Le numéro 1 soviétique, que l'on voit ici lors de son arrivée en Islande, a rejoint le chef de la Maison Blanche. Les entretiens commenceront réellement demain et porteront notamment sur les droits de l'homme et sur les problèmes du désarmement.
Caviar d'Iran, écrevisses, foie gras, mais aussi des plats régionaux, tels l'antilope ou le capitaine, un gros et délicieux poisson du pays.
Thank you. à bientôt. Dans les agendas des deux chefs d'État, aucune date n'a été retenue pour une prochaine rencontre. Ils agissent comme s'ils n'avaient plus rien à se dire.
La 9e, ça c'est un crime peut-être à l'égard de la 9e, mais c'est autre chose. Alors ces images, quand on les reçoit comme ça, vous dites quelque part dans l'un de vos livres que, dans le fond, la peur, l'angoisse des hommes est entretenue, je ne dirais pas que c'est une création, mais c'est une aggravation par les médias, qu'elle est entretenue, sinon savamment, peut-être pas innocemment, mais réellement par les médias.
Oui, je ne sais pas si je peux lire ça.
C'est un vrai crime.
Quand on voit des images comme celle-là, la violence, on vous dit que c'est inné chez l'homme parce que c'est chez l'animal. C'est Lorenz qui l'a dit. L'homme, l'animal est agressif, l'homme l'est aussi parce que l'homme est un animal. Remarquez que déjà, en passant, c'est curieux parce que on vous parle de vous rabaisser au rang d'animal.
Oui.
Quand, évidemment, les chiens font l'amour dans la rue, si vous le faisiez, on vous emmènerait rapidement, hein, parce que vous ferez un attentat aux mœurs. J'ai ruiné, il y a quelques années, dans le port de... J'étais à la voile, dans le port de Portoferraio, à l'île d'Elbe, il y a deux solides carabiniers, et moi, on m'a foutu un attentat aux mœurs. C'était à minuit et demi que ça se passait. Bon. Mais je ne pense pas d'abord que maintenant, l'expérience me montrait que l'animal n'est pas agressif. D'ailleurs, il suffit de réfléchir un peu. Est-ce qu'il y aurait eu des animaux domestiques si l'animal à la naissance avait été agressif?
Oui.
On a pris des animaux très jeunes à la naissance, et à partir du moment où on leur donnait ce qu'il faut pour vivre et qu'on n'était pas agressif à leur égard, ça devient des animaux domestiques. Le loup devient le chien de
le berger,
etc. Bon. Donc, déjà, dire l'animal est agressif, et surtout l'animal en liberté, bien sûr, il se bagarre. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est qu'à moins de circonstances exceptionnelles et de hasard, je dois dire, un hasard malheureux,
il n'est pas criminel.
Dans la même espèce, jamais un animal ne tuera un autre animal de la même espèce. Il y a des hiérarchies. Donc, la violence, en fait, prenez, tiens, je regrette beaucoup, c'est vraiment lamentable, c'est même révoltant. Quand il y a deux ou trois vieilles grand-mères ou 10 vieilles grand-mères qui sont assassinées, on crie à juste raison au scandale, mais tous les jours, les États tuent.
Absolument.
Oui, c'est amusant, vous voyez les chiites d'Afghanistan. Là. Ben, alors, quand ce sont des chiites d'Afghanistan, c'est l'affreux Jojo de Russes qui, et eux, sont des résistants.
C'est ça.
Ils ne sont pas des terroristes. Quand c'est Yalak Tolakovic, c'est les mêmes chiites. Il y a une frontière qui les sépare, mais c'est la même optique, c'est la même idéologie. Alors à ce moment-là, ça devient Jaffre Jojo. Donc vous voyez, discours logique, suivant l'intérêt qu'on peut avoir à penser dans un sens ou dans l'autre. C'est bourré de jugements de valeur. Alors la violence, tant que... Je pense que tant que les matières premières, c'est-à-dire la masse, si on veut, l'énergie, et surtout l'information technique... ne sera pas la propriété de chaque individu de cette planète, même s'il n'y a absolument pas contribué, il y aura de la violence. Bon, on vous dira, il y avait du pétrole dans les pays arabes, mais ils ne savaient pas qui il était, ils ne savaient pas l'utiliser, donc nous, sommes techniquement évolués, on va leur dire, il y a du pétrole, et on va le prendre. Alors, ils disent, ah bah oui, vous prenez notre pétrole, ah oui, mais vous ne saviez pas qu'il était là. Alors, la technologie vous donne des armes beaucoup plus perfectionnées, hein, type Exocet ou autre. Vous avez la possibilité de dominer l'autre par la terreur des armes, la bombe atomique et tout ce que vous voudrez, et même les armes conventionnelles plus perfectionnées que d'autres. Et finalement, vous imposez par la violence, les États imposent par la violence, la possibilité de posséder le sol et les ressources d'un autre État. Alors, en fait, il y a ça. Mais... dans un territoire, l'Hexagone, qu'est-ce qu'il y a? Bien sûr qu'il y a des ressources, mais il y a aussi quelque chose qui ne se touche pas, qui ne se palpe pas, qui sont l'ensemble des relations sociales entre les individus qui peuplent ce territoire. Or, ça a toujours été, depuis le néolithique, ça a toujours été une structure hiérarchique de dominance. On en change de temps en temps. On parlait tout à l'heure des bourgeois qui voudraient être gentilshommes, mais qui deviennent ensuite les gentilshommes actuels, quoi, si vous voulez. Et finalement, c'est quelque... quand vous partez à la guerre, vous partez d'abord pour défendre cette structure à la... dont vous êtes un élément, inconscient, mais vous faites partie de cette structure sociale, c'est-à-dire de l'ensemble de relations qui ne se touchent pas à une relation. Vous ne touchez pas la patrie, vous touchez votre grand-père, votre grand-mère, mais la patrie ou la République, ça ne se touche pas à la République.
Je pense
que... et c'est ça que vous défendez. Vous allez vous faire tuer pour ce type d'idéologie, pour l'État. Alors, ça a l'air effectivement très anarchique et de dire, c'est, tant qu'il y aura des États, c'est foutu, il y aura des guerres, je pense. Il ne s'agit pas de supprimer ces relations qui auront toujours une forme. Regardez la difficulté qu'on a à créer l'Europe. Des États. Alors les uns vous disent des nations. Des États. Pour moi, une nation, c'est... En France, il y a des quantités de nations. Il y a la nation bretonne, il y a la nation vendéenne, il y a la nation basque, il y a la nation corse. Oui. Et ça fait quand même. Mais alors, obliger chacun de ces sous-ensembles à se comporter comme l'ensemble, avec une commande étatique centrale, c'est ça qui devient ridicule. Et imposer aux Vendéens, comme je le disais, oui, il est un peu retardataire, bon d'accord, mais leur imposer, en faisant 500 000 morts, liberté, égalité, fraternité, il faut avouer que c'est
le bonheur est une des nouvelles en Europe.
Je pense que si on laissait à ces gens-là, et d'ailleurs ce qui est très rigolo, c'est qu'on ne dit pas, surtout, il ne faut pas le répéter, mais quand même, on voit les gens descendre pour l'école libre ou pas libre dans la rue, et en Alsace, qui a été en compétition entre la France et l'Allemagne pendant des siècles. Les rabbins, les curés et les pasteurs sont payés par l'État. Alors là, ça ne se discute pas. Hein. Donc, dans un même hexagone, il peut y avoir, suivant l'ensemble des gens qui, dans un espace géoclimatique, ont une culture particulière, parce qu'un marin n'est pas un montagnard, ni un homme de la plaine. Et chaque groupe humain, dans un espace géoclimatique particulier, même en Vendée, qui est ma région, rien ne peut. Je pense qu'on peut être internationaliste, comme je le suis profondément, j'ai ma carte de citoyen du monde, que quand on est aussi profondément enraciné et régionaliste. Mais alors que ces régions, on leur permet d'exprimer, elles,
directement
comment elles conçoivent leur rapport. On ne peut pas vivre en autarcie actuellement, les autonomistes corse ou autres, c'est de la rigolade. Bon, ils ne peuvent pas vivre isolés. Mais qui ont leur désir, qui leur laisse s'exprimer, la façon dont ils envisagent la relation économique, culturelle et politique avec l'espace dans lequel ils sont englobés.
Alors, si je comprends bien, cette construction humaine n'est pas, n'a pas l'air d'être en progrès humain, ce qui donnerait un tout petit peu raison à... Je reviens à Conrad Lawrence, dont vous parliez tout à l'heure, et qui dit, en gros, que de tous les animaux de la création, l'homme serait le seul qui serait quelque part en régression. Voulez-vous qu'on aille faire un petit tour avec les oies sauvages et Conrad Lawrence?
Oui, d'accord.
Encore, viens. Voilà le boiteux. Il s'est cassé la patte. Il y a deux semaines seulement. Ça a très bien guéri.
Alors, qu'est-ce que c'est l'agressivité? Pourquoi, par exemple, un animal attaque-t-il un autre animal? Comment
alors,
ça se
je
passe,
ne sais pas.
Vous ne savez pas.
La réponse à cette question, c'est tout simplement qu'on ne le sait pas. On ne connaît pas la physiologie, on ne connaît pas la causalité physiologique qui fait résoudre cet phénomène, et on ne peut pas définir un phénomène. On ne peut que le décrire. Et pour une description de l'agressivité, j'ai commencé une conférence à Honolulu en lisant une part d'un chapitre de Mark Twain où les deux garçons se rencontrent. Et les premiers mots qu'ils disent, c'est que l'un dit « I can lick you, je peux te battre ». Et je proposais pour avoir un nom sans préjudice, d'appeler tout ça I can lick you behavior. Le comportement de je peux te battre. Et ça veut dire, ça ne veut pas dire je veux te tuer. Ça veut seulement que je veux être supérieur à toi, ou te chasser de mon territoire, ou bien de te subjuguer. Comme d'un ordre de dominance. On peut définir l'agressivité comme le comportement qui achève ou bien la supériorité du rang dans un nombre d'écrans spécifiques qui vivent ensemble dans la société, ou bien le réussit à déterminer à qui appartient ce territoire-ci. Ce sont les deux fonctions les plus importantes de l'agressivité. Et la distribution des territoires est une fonction extrêmement importante dans le règne animal. La territorialité est surtout le moyen de la nature pour éviter la surexploitation de la nourriture par une espèce d'animaux. C'est une fonction. Et dans les sociétés qui sont plus nombreuses, c'est l'ordre du rang qui aussi est effectué par l'agressivité. Et cette sorte de l'agressivité, c'est vraiment une chose qui évite les luttes. Dans un troupeau de bétail, vous ne voyez presque rien de l'agressivité. Et vous voyez seulement qu'une vache approche une autre, et la vache supérieure marche droit, tout droit, et la vache inférieure se meut de côté. Il n'y a pas de... S'il ne fera pas ça, il y aura tout de suite une petite bataille. Mais elle sait déjà que c'est le supérieur, et ça va sans friction, vous savez.
Je vous ai entendu dire, je ne suis pas d'accord.
Oui. Non, ça dit court, j'ai le terme normal, on appelle behavioriste, c'est-à-dire que Corinne Lorenz, ce qui se passe dans le crâne, il l'ignore. Ce n'est pas un biochimiste ni un neurophysiologiste. Il l'a d'ailleurs dit, la physiologie ne l'explique pas. Bon. Peut-être il y a 30 ans ou 35 ans, on commence à comprendre quand même. Alors, il voit un comportement, et il voit un comportement humain aussi, et il dit, bon, c'est la même chose. Un comportement est supporté par un cerveau. Voilà. Et quand il dit, et en plus, ce cerveau, c'est-à-dire le rapport, grâce au système nerveux, le rapport de l'individu avec son environnement, et son environnement social, pour la vache, il y a un environnement social, va régler tout l'équilibre biologique. Alors il dit, tout se passe très bien. C'est vraiment, alors au laboratoire, j'ai eu des cobayes qui sont morts de la dominance de l'autre. Alors qu'il n'y avait pas de rapport direct entre eux.
Sans violence.
Sans violence. Simplement le fait qu'il avait été au contact direct pendant 15 jours. Deux cobayes, je prends un exemple. En contact direct pendant 15 jours, il y en a un qui prend la dominance et qui mange, qui boit, qui etc. Oh. Dès que l'autre va approcher, il fout un coup de dent. L'autre tombe malade. L'autre tombe malade, on le soigne, on est très gentil avec lui, on lui fait, je l'appelle ici, il fait une espèce de bronchopneumonie, bien. Et puis, il engraisse, parce qu'on s'est bien occupé de lui. On le remet ensemble à soin, c'est lui, le malade premier, qui devient dominant, et l'autre est mort. L'autre est mort de la dominance.
Ah oui, vraiment.
Alors, la vache, tout se passe très bien, bien sûr, la vache, elle va foutre le camp parce qu'elle sait qu'il y a hiérarchie. Bon, mais je voudrais bien qu'il ait dosé la corticostérone et qu'il ait évalué le système immunitaire de cette vache soumise et dominée. Eh bien, il n'aura peut-être pas été convaincu que tout se passait si bien. Parce que... Alors, il y a autre chose, le territoire. Qu'est-ce que c'est qu'un territoire ? On défend son territoire parce que s'il était vide, on ne le défendrait pas. C'est parce qu'il y a dedans des objets, des êtres. Oui. Il y a d'ailleurs un territoire, souvent chez l'animal, et en particulier chez les oiseaux, le territoire, c'est pendant la période du rut qu'il y a un territoire qu'on défend. Et on le défend, pourquoi ? Mais parce qu'il est indispensable, il se trouve dans ce territoire, des choses indispensables pour survivre. Et ça s'apprend, ça aussi. Si on donne tout à un animal, je parlais des animaux domestiques, ils défendront le territoire de l'homme qui leur a appris à défendre ce territoire. Un chien policier défendra parce qu'on lui aura appris à agir d'une certaine façon. C'est très suspect. C'était valable il y a 30 ans, je pense. Les éthologistes nous ont apporté énormément de choses. J'ai l'air de critiquer là. Ils ont fait des études, rien que sur cette étude du comportement. On a appris des quantités de choses du comportement animal. Maintenant, on parle d'éthologie humaine. C'est-à-dire qu'on fait ces mêmes études sur l'homme. On ne peut pas le nier. Mais faire l'étude d'un comportement sans savoir
Précisément, ce qui commande ce comportement, c'est-à-dire toute la fonction du système nerveux, alors là, il exagère, vous comprenez, parce qu'on commence quand même à comprendre. C'est ce que c'est qu'un apprentissage et une mémoire. On peut l'interdire, on peut l'augmenter, on sait ce que c'est qu'une pulsion, on sait ce que c'est que l'attention, on sait ce que c'est que l'imaginaire chez l'homme. Donc tous ces mots, autrefois qui étaient des mots, actuellement c'est devenu des mécanismes. L'affectivité, c'est pas...
Et puis vous évoquez vos travaux de laboratoire, là, et donc qu'il n'a pas fait, ça ne l'a pas intéressé, il a examiné, il a vécu avec des oies ou d'autres animaux, et de l'étude de leur comportement, il a tiré des lois vraisemblables, mais il n'a pas vérifié d'où les choses étaient parties. Ce que j'aimerais, c'est aller... ça m'est jamais arrivé dans la vie.
Remarquez qu'on lui a reproché, c'est pas vrai d'ailleurs, là c'est une fausse... On lui a reproché de ne pas avoir étudié... elle avait étudié uniquement des animaux en captivité. Oui. Hein, alors que actuellement, les éthologistes vont au Kenya ou ailleurs, en forêt vierge, ils discutent avec les chimpanzés ou les orang-outans, ils vont sur place voir ce qui se passe. On leur reprochait ça. Je pense qu'on peut aussi tirer des renseignements très, très précis, même sur l'animal en captivité.
Voulez-vous qu'on aille, nous, dans votre laboratoire que j'ai jamais vu? J'aimerais bien voir comment ça se passe chez vous.
Ah oui, ça, non, écoutez, ce sont... Oui,
ça, c'est la mauvaise surprise.
C'est, bon, il faut remercier surtout... Madame Le Vigan.
Bonjour, ma petite Janine.
Bonjour. Comment allez-vous? Ça va bien.
Bon, comme toujours, quoi. Un peu déprimé, mais enfin.
Oh.
Bon, tout le monde est là?
Oui.
Ah bon, ben, on va aller voir.
Ça va?
Très bien. Oui, oui. Nous allons attaquer une section. On a une longue journée.
D'accord.
J'ai l'impression tout à fait régulière. J'arrive à avoir une grosse productivité.
Et ben, là, c'est pas facile.
C'est pas facile.
Nous, ce qui nous intéresse, c'est comprendre les mécanismes vivants dans leur intimité, dirais-je. L'exploitation de nos drogues, c'est pas la finalité. La finalité, c'est de s'en servir comme outil pour la démonstration de ce qu'on pense être un mécanisme du vivant. Alors, comme on vit dans un monde de marchands et de boutiquiers, on leur donne des molécules, ils les exploitent et ça nous permet de vivre. Mais c'est pas notre but. Je ne dis pas des gens qui travaillent avec moi, je dis des gens avec lesquels je travaille. Pas parce qu'il n'y a pas de compétition hiérarchique. Il n'y a pas d'attaché de recherche, il veut devenir maître de recherche, pas de maître de recherche, il veut devenir directeur de recherche. Ah, ils sont là. Les rapports entre nous ne sont plus des rapports de hiérarchie, ce sont des rapports de recherche du plaisir en commun.
J'ai cru voir, parce que j'en ai entendu parler, il y a bien un dessin de
ton. Il faut dire quand même...
Des taux.
Il faut dire que c'est des séquences qui repasseront d'ailleurs, je suppose, en quelques mois,
oui.
Qui ont été prises par Le Vigan, enfin, d'un film qui a été pris par Mlle Le Vigan, ou Madame Le Vigan, qui est une femme charmante et que je tiens à remercier ici. C'est effectivement une partie importante de ma vie journalière, c'est même ma vie journalière. Mais elle débouche quand même sur une sociologie, une économie et une politique. J'en ai touché deux mots d'ailleurs.
Oui, oui. Mais qui n'était pas là l'objet du film. Mais j'ai vu ce petit dessin, parce que j'ai entendu parler de ce petit dessin, dans lequel il y a deux personnes qui parlent ensemble et évoquent une troisième qui, de près ou de loin, je crois que c'est un dessin de pont, vous ressemblerez à un
pont. Ah,
bon, et ils disent... ce jeune, il n'a rien dans la tête.
Si ce n'est des gilets jaunes. Ce qui m'attriste chez ce jeune homme, c'est qu'il n'a rien dans la tête. Mais si ce n'est des idées neuves. Oui, bon, d'accord, là, non, là, le dessin aussi, c'était Cabu qui, un jour, à la radio, à la télévision, m'a croqué aussi. Bon, il y a plusieurs...
Quand l'heure de se quitter approche, il est de coutume, si l'on veut, de demander... J'avais fait une belle réponse à la question, est-ce que vous croyez en Dieu? Et vous avez répondu, je ne sais pas. Vous avez dit, d'ailleurs, personne ne sait.
Oui.
Alors... Je voulais vous montrer pour terminer un film qui vient de sortir, un film important qui s'appelle Mission. J'aimerais qu'après que vous ayez regardé cet extrait, vous me disiez un peu ce que vous ressentez.
1750, aux confins de l'Argentine et du Brésil. Comment les Indiens Guarani auraient-ils pu prévoir que le martyr de cet inconnu amènerait parmi eux un homme dont l'existence se mêlerait inextricablement à la leur? C'était la volonté divine. Il les a fait quitter la jungle et bâtir la mission. Ils ne comprennent pas pourquoi vous avez changé d'avis. Vous n'auriez jamais dû vous faire prêtre. Mais je suis prêtre, ils comptent sur moi. Si vous devez mourir avec du sang sur les mains, ce sera la trahison de tout ce que vous avez fait. Si la force prime le droit, l'amour n'a rien à faire en ce monde. Votre éminence, en aval des chutes, la jungle, s'il faut vraiment la diviser, peut bien être répartie entre Espagne et Portugal, comme vous l'avez concédé. Mais en réalité, en amont des chutes, on entre dans le domaine de Dieu et des Guarani. Il n'y a personne d'autre. Et leur nature n'est pas animale. Ils sont de nature spirituelle.
Spirituelle? Ils tuent leurs propres petits.
C'est vrai. Puis-je répondre, monsieur? Les hommes et les femmes sont autorisés à avoir un enfant chacun. S'il leur en est un troisième, il est mis à mort aussitôt. Il ne s'agit nullement d'animalité. C'est une nécessité vitale. Ils ne peuvent se charger que d'un enfant chacun dans la fuite. Et devant qui fuit-il? Devant nous. C'est-à-dire qu'il fuit la servitude.
C'est invention pure.
C'est vrai, votre éminence.
Il est bien connu que c'est les absurde. Espagnols.
Votre éminence.
Esclavagistes.
Votre éminence.
Attaquent nos missions.
C'est absurde. C'est absurde. Votre éminence.
Silence.
Votre éminence.
C'est vrai.
Votre éminence. Dans les territoires gouvernés par l'Espagne, il n'y a pas d'esclavage. Mais il est vrai que cette institution prévaut sur les territoires de nos excellents voisins, les Portugais. Selon moi, elle est d'ailleurs fort mal comprise.
Mais il a raison.
Mais ici, en territoire espagnol, nous dirigeons nos plantations selon la stricte observance des lois espagnoles et des préceptes de l'Église. Vous mentez. Vous mentez. Je n'ai nulle intention de relever le défi venant d'un moine. Sa robe le protège.
Ma robe ne protège que vous.
C'est vous, impertinent. Vous oubliez que je représente le monarque. J'exige des excuses sur le champ. Vous entendez? Sur le champ. Vous avez un exemple typique de la recherche de la dominance.
Oui, là, et puis...
Et à l'intérieur d'une institution. C'est-à-dire de ce qui peut gratifier l'un ou ce qui peut gratifier l'autre, alors que finalement, le premier... il est sur le terrain et il peut concevoir qu'il y a d'autres finalités à proposer à l'homme que celle de dominer dans un groupe social aussi puissant qu'il puisse être. Dès qu'il y a hiérarchie, c'est...
Il y avait beaucoup de choses qui vous concernaient. Il y avait cette dominance comme chaque fois. Il y avait cette fuite, quand vous parlez de cette fameuse fuite. Et là, la fuite, c'est l'explication qu'il n'y a aucune sauvagerie dans la disparition et le sacrifice d'un enfant. Toutes les choses prennent une autre couleur. Je pensais à cette phrase de Céline. Dans le fond, j'aurais fait très attention tout au long de ma vie à ne pas mourir dans le camp de ceux qui ont raison.
Et ça, c'est très très beau.
C'est Céline.
Céline, ah oui. Ben,
c'est super, non?
Oui, c'est très, très très beau. Oui, parce que les convaincus et ceux qui ont raison, c'est affreux.
Alors, vous continuerez tout
mais
le temps.
Mais il y a toujours. C'est affreux. S'il n'y avait qu'un camp où on a raison, mais on a raison dans tous les camps. Et chaque camp.
camp combat l'autre et détruit l'autre parce qu'il a raison.
Alors on a plutôt envie d'éviter d'être du côté des gagnants, mais on est perdu, on est nulle part. C'est un peu ça la difficulté. Si on a ce grand besoin de loyauté envers ce qu'on pense, on n'a pas envie d'être avec les gagnants. Alors on sera.
Ben, je pense justement que... Parler du film de René tout à l'heure, il a fait comme vous. Pour me présenter, il a voulu absolument que lire la notice de Ouzou.
Bon. Ah, je ne savais pas, mais je sais pas. C'est vrai, vous dites.
Et je dis non, écoute, c'est les gens qui me connaissent vont dire ils se foutent de nous, et les gens qui ne me connaissent pas vont y croire. Alors faut quand même pas. Laisse-moi ajouter quelque chose. Ah, Niam, qu'est-ce que tu veux dire? Bon, j'ai convaincu que je ne voulais pas lui dire. Et j'ai dit trois ou quatre phrases, et ça se terminait en disant je suis parfaitement adapté à une société dont j'ai largement profité.
Oui.
Tout en étant en dehors. C'est-à-dire qu'on peut vivre dans une société. Si je voulais vraiment ne pas être dépendant, j'aurais été dans une île du Pacifique Sud dont je parlais tout à l'heure, j'aurais fait ce qu'a fait Brel, quand il a su qu'il avait un cancer du poumon. Mais j'aurais pas eu les HPLC, c'est-à-dire, ou les appareillages très sophistiqués dont j'ai besoin pour travailler, donc pour me faire plaisir. Et c'est ça, c'est la société qui les invente et qui me permet de les avoir à ma disposition et à ceux avec lesquels je travaille. Donc, on ne peut pas fuir une société. On est un élément de cette société. Et je crois que l'important est... Comme vous êtes tout seul, j'ai écrit aussi, je ne sais pas si vous l'avez lu, j'ai écrit qu'on ne se bat pas contre une compagnie de transport en commun. Voilà. Et on ne se bat plus actuellement sur un champ clos, qu'en apportaient des chevaliers dont vous parliez tout à l'heure. Un à un, d'homme à homme. Actuellement, on fiche des bombes sans voir ce qui tombe, on n'entend pas les cris des mourants, sur des hôpitaux, sur des crèches, ça vient pas, bon. Et on n'a pas de droit de conscience, on ne voit pas l'autre. Alors, je pense que la seule façon de s'en tirer, c'est l'éloge, pour ça que j'ai écrit l'éloge de la fuite, c'est une fuite dans un comportement qui semble être conforme, mais qui va jusqu'à la limite de la rupture, toujours. Et puis, au dernier moment, trouve un moyen de ne pas faire ce que les autres font. Et quand même, qu'on vous foute la paix. Parce que c'est ça. Si on n'est jamais mieux qu'en mer, hein, avec un groupe d'amis, de gens qu'on aime bien, avec les étoiles naines et quelques galaxies dans le ciel, et puis 3000 mètres de fond dans la Tyrrhénienne. Là, on est vraiment avec... on a l'impression d'appartenir au cosmos. Quand on est avec les autres, c'est très difficile de se rendre compte qu'on est parti de cet espace cosmique. Parce que l'autre est tellement en recherche de dominance, tellement ce n'est que ça. Compétition, compétition, compétition. On apprend à l'enfant dès le départ que s'il veut être heureux, il faut qu'il sorte d'une grande école, qu'il domine. Et alors vous avez les patents, les leaders, les tapis de machin, les tapis de trucs. Hein. Bravo monsieur, vous avez gagné, vous êtes un gagnant. Hein. Bon.
J'ai très envie, je voudrais rester tout le temps avec vous, mais j'ai très envie de vous rendre à la mer Tyrrhénienne.
Merci.
Merci d'avoir été là ce soir.
Je vous remercie de m'avoir invité.